Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Élections en Namibie, la population sera aux urnes ce mercredi dans les élections générales appelées à confirmer la mainmise de la soie pour le parti au pouvoir depuis 1990. Malgré la grogne croissante de la population contre la crise et la corruption, face à une opposition désunie, le président sortant Hage Geingob, 78 ans, et son organisation du peuple du sud-ouest africain, la SWAPO, semblent assurés de rempiler pour 5 ans en dépit d'un bilan des plus contrastés. Malgré un sous-sol riche en ressources naturelles, dont l'uranium, des diamants et des fonds marins riches en poissons, plus le tourisme en pleine expansion, la Namibie est plongée depuis plusieurs années dans la récession. Afrique de l'Est maintenant, le Kenya devrait se doter d'un poste de premier ministre. C'est la recommandation d'une commission dans une série de propositions visant à renforcer l'unité du pays et à sortir du cycle des élections violentes. Les détails avec Abdourahmane Dia.
Ce rapport très attendu, établi après plusieurs mois de consultations dans tout le pays, a été remis hier au président Uhuru Kenyatta en présence du vice-président William Ruto et de l'opposant Raila Odinga. Cette commission avait été créée après la poignée de main en mars 2018 entre les deux rivaux, M. Kenyatta et Odinga. Avec ce geste symbolique, les deux hommes avaient promis de tirer un trait sur la réélection contestée de M. Kenyatta et de réconcilier le pays. Le schéma envisagé par la Commission, qui nécessiterait une réforme de la Constitution, prévoit que le président reste le chef d'État et de gouvernement. Le Premier ministre serait chargé de superviser et gérer les affaires courantes du gouvernement. Le Kenya n'a eu que deux premiers ministres dans son histoire. Jomo Kenyatta, le père de l'actuel président, en 1963, avant de devenir chef de l'État, et Raila Odinga, dans un gouvernement d'union nationale entre 2008 et 2013. La fonction avait été supprimée par la Constitution de 2008. Destiné à sortir de la crise électorale de 2007-2008.
Violence en République démocratique du Congo. Deux personnes ont été tuées mardi dans l'est du pays dans de nouvelles manifestations d'habitants qui dénoncent ce qu'ils appellent l'inaction des autorités congolaises et de l'ONU face au massacre de civils attribués au groupe armé rebelle ADF. 80 morts depuis le 5 novembre. À New York, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné aussi bien les attaques contre les civils que celles contre des installations onusiennes lors d'une réunion hier sur ces émeutes anti-ONU qui ont fait depuis lundi au moins 6 morts à Beni, grande ville de la province du Nord Kivu. Le Conseil de sécurité s'est inquiété des conséquences de l'insécurité sur la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Beni et Butembo, deux grandes villes du Nord Kivu, sont les épicentres de l'actuelle épidémie de fièvre hémorragique dans le pays qui a déjà tué 2199 personnes. RDC toujours, inondations, glissements de terrain et électrocution ont fait au moins 41 morts mardi à Kinshasa, la capitale. Le point avec Bagassi Koura.
Le vice-gouverneur de Kinshasa, Néron Mbungu, affirme que les dégâts matériels et humains sont énormes, ajoutant que le bilan est encore provisoire. 80% des dégâts sont causés par des constructions anarchiques, a-t-il précisé. Parmi les victimes figure un enfant électrocuté. Les quartiers populaires, principalement sur les hauteurs de Kinshasa, Kisenso, Lemba et Mont Ngafula, ont été les plus touchés. Une quinzaine de personnes sont mortes à Lemba, selon le bilan provisoire. Le président Félix Tshisekedi s'est rendu sur les lieux hier. Troisième ville la plus peuplée d'Afrique, Kinshasa compte quelque 10 millions d'habitants, avec une population qui a doublé en 20 ans, selon les estimations. Aucun recensement n'a été réalisé depuis des décennies.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La lutte contre les djihadistes dans le Sahel. Maintenant, Washington a conseillé mardi aux citoyens américains de ne plus voyager au Burkina Faso, jadis prisé par les touristes, mais en proie depuis 2015 à des attaques djihadistes récurrentes. Selon le département d'État, le ministère américain des Affaires étrangères, le Burkina Faso est désormais à l'échelon le plus élevé de menaces pour les voyageurs en raison du terrorisme, de la criminalité et des enlèvements. De nombreuses prises d'otages ont eu lieu ces dernières années au Burkina Faso, confrontées depuis 2015 à des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières. Sahel toujours, les présidents du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont exprimé hier leur solidarité avec la France après la mort de 13 soldats français de l'opération Barkhane dans une collision accidentelle de deux hélicoptères au Mali. Les détails avec Irénée Herman Umbo.
Vous avez dit à juste titre que ces soldats sont morts pour la France. J'ajouterai qu'ils sont morts pour le Mali, qu'ils sont morts pour le Sahel, qu'ils sont morts pour la liberté, qu'ils sont morts pour l'homme, a dit le président malien Ibrahim Boubacar Keïta dans un message de condoléances adressé à son homologue français Emmanuel Macron. Dans un message également posté sur Twitter, le président burkinabé Roch Marc Christian Kabore salue la mémoire des soldats disparus et adresse ses sincères condoléances à leurs familles ainsi qu'à l'ensemble du peuple français. Le président nigérien Mohamedou Issifou a fait de même sur Twitter suite à la mort tragique de 13 soldats engagés à nos côtés dans la lutte contre le terrorisme. Il a exprimé toute sa solidarité et sa compassion pour les familles. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont en proie aux violences djihadistes et l'opération française Barkhane combat aux côtés des armées nationales de ces pays.
Les boîtes noires des deux hélicoptères militaires accidentés lundi soir au Mali ont été récupérées et vont être analysées, a déclaré aujourd'hui le colonel Frédéric Barbiri, porte-parole de l'état-major des armées françaises, deux jours après l'accident qui a causé la mort de ces 13 militaires français au Mali. Les deux hélicoptères, un Tigre et un Cougar, sont entrés en collision durant une opération de combat contre des djihadistes dans le sud du pays. Sénégal, une affaire de maltraitance d'enfants défrait la chronique dans le pays. Un maître coranique, un menuisier métallique et des parents d'élèves sont envoyés en prison dans la région de Louga dans le nord. Ceci après la découverte d'enfants enchaînés dans une école coranique. Les prévenus doivent s'expliquer devant le juge aujourd'hui. Pour plus d'explications, Abdourahman Dia joint à Dakar le directeur exécutif d'Amnesty Sénégal, Sedi Gassama.
Le maître coranique et les parents, ainsi que le ferrailleur, seront jugés demain au tribunal de Louga. Donc le procureur de la République a fait son travail et nous attendons à ce que le juge qui va juger cette affaire applique la loi. Ils sont poursuivis pour maltraitance et mise en danger de la vie des enfants. Les parents sont poursuivis pour complicité. Nous attendons à ce que la loi soit appliquée de façon ferme contre toutes ces personnes. Cette pratique semble être une pratique très courante dans les daras, très ancienne dans les daras. Il faut donc que l'État sévisse pour qu'elle puisse prendre fin.
Et il y aurait aussi des pressions sur les autorités judiciaires. On a également vu la sortie de plusieurs membres de cette communauté de maîtres coraniques pour soutenir leurs collègues.
Oui, vous savez, tous ces maîtres coraniques sont opposés à la réforme de l'enseignement coranique au Sénégal. Non seulement ils veulent continuer à exploiter les enfants, mais ils veulent continuer à utiliser le châtiment corporel, la mendicité. Et il appartient à l'État de respecter ses engagements internationaux. L'État s'est engagé récemment devant le Comité des droits de l'homme à mettre fin à la mendicité des enfants, à mettre fin à la maltraitance des enfants, en adoptant notamment le Code de l'enfant dont le projet de loi existe depuis maintenant plusieurs années, mais n'est pas encore voté à l'Assemblée. Donc il faut que ce projet soit adopté, que ce Code soit adopté. Le Code prohibe non seulement la mendicité des enfants, mais toutes les formes de maltraitance des enfants, y compris dans les écoles coraniques. Jusqu'ici, les maires coraniques sont opposés à son adoption, mais je crois que le moment est arrivé pour que la société civile pousse pour son adoption et qu'évidemment, il puisse permettre de mettre fin à ces maltraitants.
Et pourquoi, en fait, la réforme traîne et pourquoi même l'interdiction de la mendicité des enfants traîne? Est-ce que l'État aurait peur de froisser certaines couches de la société?
Oui, absolument. Vous savez, les pressions dont on parle depuis quelques jours viennent de marabouts très puissants. On parle de pressions qui viennent d'une grande cité religieuse du pays. Donc ce sont des marabouts puissants qui soutiennent ces maîtres coraniques. Ces maîtres coraniques sont des talibés de ces marabouts-là. Donc ils les soutiennent. Malheureusement, ça ne peut pas continuer. L'État ne peut pas continuer à laisser faire cette maltraitance des enfants. Donc il faut que clairement ces grands marabouts sachent que l'attitude est déplorable et que cette maltraitance n'est ni recommandée par le Coran. Nulle part dans le Coran, nulle part dans la Sunna, dans les hadiths, on trouve une recommandation qui dit que pour éduquer un enfant, il faut le maltraiter. Ça n'existe nulle part. Au contraire, ce type de maltraitance est prohibé par toutes les religions révélées.
Le militant sénégalais des droits de l'homme, Sedi Gassama, joint mardi à Dakar, au Sénégal. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.